Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci transportaient déjà les gens dans des univers quand ils créaient des fresques dans des lieux de culte. James Turrell, qui est à gauche, en transformant la lumière, en déformant l'espace avec la lumière, créait déjà des expériences immersives au milieu du XXe siècle. Et même les hommes préhistoriques créaient des expériences immersives en créant des dessins dans des grottes, avec des jeux de lumière à la torche. Donc ça ne date pas d'hier, une expérience immersive. La seule différence, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui permettent de transporter les gens, le public, dans vos univers. Alors c'est bien beau de transporter dans des univers, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de créer une expérience immersive, très clairement? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais un mal de chien à retenir une page d'un livre de grammaire, disons le bled, pour ceux qui sont de mon époque, et pourquoi j'arrivais facilement à retenir 300 pages d'un livre ou 3 heures d'un film. Et en fait, la raison, c'est l'émotion. L'émotion, c'est un levier formidable de mémorisation et même de passage à l'action. Et c'est le lien dans le cerveau entre l'hippocampe et l'amygdale. Et des émotions, on en a plus que deux. Il y a Robert Plutchik, qui est un psychologue et professeur américain, qui en a défini 8 primaires, qui conjuguées entre elles, en créent une vingtaine d'autres. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Parce que quand on crée une expérience immersive, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, il y a Ange qui est juste en face de moi, c'est une réflexion qu'on a en cours en commun, et qu'on doit faire ressentir aux gens l'occupation allemande, on doit faire ressentir le temps de confinement, on n'a pas envie de transmettre les mêmes émotions, de faire ressentir les mêmes choses, que quand on crée une expérience sur le parcours dans un territoire naturel, par exemple. Donc la connaissance des émotions est utile quand on crée une expérience immersive. Donc en résumé, moi c'est ma définition, j'ai besoin de définir les choses pour créer plus facilement. Je pense qu'on peut le définir comme ça. Une expérience immersive, c'est ressentir pour impulser un mouvement de mémorisation et d'action. Moi, j'appelle ça le conatus immersif. Le conatus, ça vient de Spinoza dans l'éthique. C'est une impulsion qui transforme le repos en mouvement. Et c'est justement ça, l'expérience immersive qu'on retrouvera à Arras, un projet qui est en cours. C'est le fait de ressentir le territoire pour mieux le comprendre et même le visiter. Et c'est une expérience qui se trouve dans un bureau d'information touristique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un office de tourisme. Et en fait, c'est un office de tourisme qui est assez atypique. C'est-à-dire qu'il est dans un hôtel de ville, en plein milieu de la Grand Place d'Arras, un bâtiment qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ils ont 215 000 visiteurs par an, ce qui est quand même un très beau chiffre, et avec des pics d'affluence qui sont assez conséquents. Et donc toute l'idée, ça a été de créer une expérience immersive sur 4 espaces, sur 160 mètres carrés, en déambulation libre. Et le but, c'est de faire ressentir, ce que je disais, c'est important, faire ressentir le territoire sur ces 4 espaces, pour pouvoir mieux comprendre et mieux parcourir le territoire. Et dans ces espaces, il y a un lien très fort entre chaque espace, les espaces se dialoguent et se répondent entre eux, et il y a un lien très fort entre l'émotion vers usage. C'est une sorte d'influence, finalement, qui permet de mieux mémoriser. Donc je vais vous présenter très rapidement, parce qu'on a 20 minutes, mais 2-3 espaces. Il y a un espace, par exemple, quand on rentre dans l'expérience, il faut qu'elle soit globale, déjà, parce que l'univers doit être global sur les 4 espaces. Quand on rentre dans cet espace qui s'appelle l'alcôve, il faut savoir qu'Arras, la baseline d'Arras, c'est que vous allez prendre le temps de vivre. Donc là, le premier espace, c'est un couloir naturel où on peut se reposer, changer de position de corps. Et c'est un espace qui est très étroit. Donc j'ai créé des alcôves immersives où on a un travail de gravure bois avec des vitraux rétroéclairés. On peut s'asseoir sur des mobiliers. On voit le volume. On peut s'asseoir pour contempler le paysage arageois via des fenêtres magiques. On a du son spatialisé avec une expérience naturelle. On est vraiment sur quelque chose de léger avec des matières brutes. Et on est vraiment dans une logique de prendre le temps de lire même. Et vider le cerveau, c'est un peu ça. Et après, quand on regarde l'espace qui est collé, qui s'appelle l'immersarium, qui est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans le pic émotionnel. Donc dans une expérience, il y a une règle qui s'appelle le pick and roll, c'est-à-dire que les gens ont tendance à retenir le pic émotionnel et l'expérience de fin. Donc là, dans cet espace, on va faire ressentir, c'est le pic émotionnel. On va vraiment chercher en profondeur à ce que les gens ressentent quelque chose. Et ça, c'est très très dur. C'est vraiment, quand on ressent quelque chose en regardant un film, c'est qu'on a atteint, je trouve, l'objectif. Donc là, dans cet espace, on a par exemple un mégalithe qu'on retrouve sur le territoire. Ce mégalithe, il prend la parole, il vit cœur battant, il est lumineux. Et quand il prend la parole, il y a des écrans et du son spatialisé, de la musique qui transporte les gens dans l'espace et le temps. On retrouve du coup des fenêtres magiques sur chaque côté du mur, on retrouve du son spatialisé avec du sound design, une composition musicale, mais on retrouve également une mise en exergue du mégalithe avec un dessin de vitraux qui sont, là on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, mais en fonction de la position des gens, on a vraiment une mise en exergue du mégalithe qui lui donne un côté un peu divin, et une animation lumineuse qui est en corrélation avec le reste des médias. Donc on est sur une sorte de salle immersive avec une capacité de narration qui est assez pointue et qui permet justement d'aller en profondeur pour déclencher de l'émotion. Mais à quoi bon ? À quoi ça sert de déclencher de l'émotion ? Ça, on l'a vu, c'était retenir, mais du coup, déclencher de l'émotion permet de retenir, mais combien d'informations on peut retenir ? Ça, c'est un truc aussi que je trouve plutôt intéressant. Est-ce que vous savez combien d'informations on peut retenir dans notre mémoire temporaire ? J'ai mis un petit indice avec le Burger Quiz. Il y a le Burger de la Mort à la fin de ce jeu. Et le Burger de la Mort, on doit retenir un certain nombre de réponses. Je ne sais pas si vous avez une idée. 10. Je peux se tromper sur. T'es pas loin, Ange. Du coup, on peut retenir entre 5 à 9 informations dans notre mémoire temporaire. C'est la loi de Miller. Et ça, pour le coup, c'est vachement important, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas tout retenir. Et moi, j'aime bien, justement, pour répondre à ça, créer de l'apprentissage progressif. On peut appeler ça du marketing omnicanal. La logique, c'est de se dire, on va chercher le pic émotionnel, on va mettre une petite graine, faire ressentir les choses, et on va faire en sorte que les gens, les touristes, entre autres ici, retiennent quelques mots-clés, quelques visuels, et ces éléments seront un point d'ancrage pour que les conseillers en tourisme viennent échanger avec eux. L'échange humain est fondamental et reste fondamental, il n'est pas remplaçable. Et pour que ces conseillers en séjour viennent échanger avec eux pour construire le voyage, et ils utilisent une borne interactive avec une application carnet de voyage pour construire les différentes découvertes à faire sur les jours, et se les envoient sur les différents canaux de communication. C'est vrai qu'il y a une vraie utilisation émotion vers usage, et un vrai apprentissage progressif grâce au marketing omnicanal. Et le côté échange humain reste fondamental. Je tiens à le préciser, parce qu'il pourrait très bien être remplacé, mais pour le coup, c'est vraiment pas l'enjeu, et je pense que ça reste un levier formidable de découverte, le fait d'échanger avec des gens qui connaissent bien le territoire. Du coup, la méthode de création, elle est simple, en 4 éléments. C'est 1, l'imprégnation, c'est savoir se connaître, et savoir ce qui crée votre unicité. Une fois qu'on connaît notre unicité, on sait quoi raconter. La deuxième chose, c'est définir l'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie que les gens ressentent ? C'est juste cette question, toute simple. La troisième chose, c'est concevoir, voire éco-concevoir. Et c'est la transposition de ces deux premières phases. Donc là, on va parler de scénographie, on va esquisser, on va parler de lien entre émotion et usage. On va aller en profondeur pour trouver une forme et un concept qui permettra de transporter, de partager cette unicité. Et la quatrième étape, ça c'est hyper important quand on parle d'innovation pour le coup, c'est le POC, c'est éprouver le concept. Et là sur Arras, on a fait un POC, un peu particulier, moi j'aime bien le faire dans cette forme-là. On a créé un prototype à échelle 1/3 de l'espace Immersarium. Donc on a fait une vraie production audiovisuelle, on a fait la vraie construction, on a placé le prototype à échelle des yeux humains, et j'ai dessiné une scénographie pédagogique qui permet de comprendre l'expérience globale et le concept global, et de vivre l'expérience dans un des espaces. Donc c'est à la fois éprouver, est-ce que ça fonctionne ? Si oui, quelle est la solution pour que ça fonctionne ? Et 3, montrer que ça fonctionne. Et ça c'est important, montrer que ça fonctionne, parce que dans un projet public, pour le coup, ça... Il y a des financeurs, il y a des partenaires, et là tout l'intérêt c'était de se dire on va leur montrer ce qui est en train d'être fait, on va leur montrer que ça fonctionne, on va leur montrer que ça a de l'intérêt. Et du coup on a invité les partenaires, on a invité les politiques, on a invité les journalistes, on a invité les parties prenantes, et on a fait un vrai événement de compréhension de ce qu'on était en train de faire. En résumé, Arras, c'est une recherche d'innovation sur le fond, sur la forme, mais également sur la méthode, c'est-à-dire une recherche d'expérience immersive raisonnée. Et pour ça, pour essayer de le résumer, c'est de se dire, cherche un impact humain fort et un impact environnemental faible. C'est vraiment la chose la plus simple. Et pour faire ça, sur ce projet-là, a été dessiné 5 choses. 1, c'est un modèle d'éco-conception. Donc on se base sur la route braisée ou sur l'analyse de cycle de vie. Vous pouvez retenir la route braisée. En éco-conception, c'est vraiment des conseils de l'ADEME pour chercher un impact environnemental le plus faible possible tout au long du parcours de création. Le deuxième, c'est concevoir avec techno-discernement. Après, il y a l'étude technique comparative. Ça, pour le coup, c'est se dire, je sais que ça peut marcher comme ça, avec cette méthode, ce matériel, mais est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Par exemple, nous, on savait que c'était un matériel qui était plutôt américain, qui fonctionnait bien. On a trouvé une entreprise qui était française. Donc, on arrive à limiter l'empreinte environnementale en limitant le fret, tout en faisant vivre le tissu économique local et potentiellement diminuant les frais en fonction de ce qu'on achète et de la réutilisation. Le modèle d'achat est fondamental aussi parce que c'est là où on va lier ce qu'on doit acheter avec la durabilité, avec les labels environnementaux, l'engagement environnemental des entreprises, avec ce qu'on en fait, ce qu'on fait du matériel. Par exemple, sur le POC, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'on va tester une idée. Normalement, on ne sait pas à l'avance que ça va fonctionner, donc le matériel ne serait pas réutilisé. Là, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait de ce matériel? On va le réutiliser, du coup, on limite l'impact environnemental en limitant au maximum les déchets. Et la dernière chose, c'est le bilan carbone comparatif. Alors ça, pour le coup, c'est hyper important parce que l'éco-conception, c'est imparfait. Il y a plein de méthodes et on n'est pas sûr que ça fonctionne. C'est un élément qui est tout le temps en progression. Donc le bilan carbone comparatif, c'est se dire, je vais calculer l'empreinte environnementale climat sur ce que j'ai créé et je vais le faire sur mon projet qui est éco-conçu et je vais le faire sur un projet similaire qui ne l'est pas. Et je vais voir quel est le résultat. Et en fonction de ça, potentiellement, on peut trouver de nouvelles solutions. Le but, c'est pas de se dire « je suis bon », le but, c'est de se dire « est-ce que je suis bon ?». Et là, par exemple, sur Arras, on a gagné, de la conception jusqu'au POC, on a gagné un tiers de l'empreinte environnementale. Donc 4 tonnes de CO2 équivalent, ça ne veut pas dire grand-chose. L'important, c'est de voir en pourcentage ce qu'on gagne et de voir où ça a été utilisé. Par exemple, là, on est à 70% sur les achats. C'est-à-dire que notre empreinte environnementale est liée à ce qu'on a acheté, pas mal de technologies. Mais vu qu'on va réutiliser le matériel dans l'échelle 1, en gros, on amortit cet investissement environnemental. Donc ces 4 tonnes 2, en réalité, enfin ces 2 tonnes 8, elles seront limitées, elles seront réduites par rapport au calcul global. Et quand on crée justement, ça c'est plutôt un conseil, mais quand on partage ce genre d'informations, j'aime bien les transposer sous une forme plus compréhensible. Donc en gros, ce qu'on a gagné un tiers d'empreinte environnementale, c'est 328 nuits dans un hôtel et 1008 nuits dans un camping. Sur les 2 dernières slides, je voulais mettre en avant qu'un projet comme celui d'Arras, pour le coup, là ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, de la partie étude jusqu'à la partie conception, là on va lancer les appels d'offres l'année prochaine, et il restera 1 an de fabrication. C'est un projet qui ne se fait pas tout seul, donc j'ai mis tous les partenaires et toutes les équipes de production qui ont travaillé avec moi jusqu'à maintenant, et je tenais à mettre en avant la partie Hauts-de-France Innovation Tourisme avec Ange sur la mise en relation pour trouver les bons partenaires, pour construire l'idée, parce qu'avoir une idée c'est bien, mais il faut être bien entouré pour la concrétiser, et 2, c'est le porteur de projet, c'est-à-dire qu'un projet d'innovation à l'heure où les bureaux d'information touristique ferment ou sont en décroissance, se dire « je vais aller à l'inverse et je vais créer une expérience incroyable pour faire ressortir et rejaillir ce qu'est un bureau d'information touristique », il faut avoir un esprit entrepreneurial et il faut garder cet esprit entrepreneurial tout au long des barrières qui arrivent tout au long du projet. Parce qu'on reste dans un projet public, c'est-à-dire que depuis le début, depuis 2 ans, il y a des barrières, et il faut savoir bien sauter au-dessus ou bien les contourner. Et ça, c'est Christian Berger, qui est porteur de projet avec son équipe, qui a cette capacité aussi à concrétiser le projet. Voilà, je vais le mettre en avant. Et pour terminer, moi j'adore cette citation. C'est une citation de Gilles Deleuze à l'école, l'université expérimentale de Vincennes. Il dit « La toile est déjà remplie de clichés avant que le peintre ne commence. » Et en gros, il explique, en parlant du processus créatif de Cézanne, que la phase 1, la première phase de création, c'est un chaos germe. C'est un chaos germe dans lequel résident tous les clichés. Le cliché, par exemple, qui dit que la technologie crée l'émotion. Quand vous regardez un film et que vous êtes ému ou vous pleurez peut-être, c'est pas la télé qui vous fait pleurer. Et quand vous êtes au cinéma, qui se passe la même chose, c'est pas les enceintes sont spatialisées ou le grand écran qui crée cette émotion. C'est un élément amplificateur, mais c'est pas un élément créateur. Donc l'idée, c'est de se dire, je suis dans ce chaos germe et je vais sortir une idée. Je vais sortir un concept qui fera votre unicité. Et ça, c'est ce que j'appelle le fait immersif. Gilles Deleuze appelle ça le fait pictural, je l'ai juste décliné en fait immersif. Et le fait immersif, c'est vraiment une quête. Et la question est, aimez-vous l'aventure? Voilà, je vous remercie. On passe aux questions. Non, il n'y a pas des débats.
Non, c'était le timing 20 minutes.
Ah, c'était 20 minutes, là?
T'as tenu
20 minutes. Ah, c'est vrai,
je... Très bien.
Et peut-être des questions, non? Il n'y a pas des... Enfin, je ne sais pas. Après, on fait un échange avec Ange de France Innovation Tourisme sur la table qui est juste ici. Et on va justement prendre les différents sujets sur lesquels vous voulez parler, échanger. Donc que ce soit la création, l'éco-conception ou le montage même d'une expérience comme celle-ci. Alors voilà, on est vraiment ouvert aux différents thèmes que vous souhaitez aborder. Et on a 20 minutes d'échange qui est sur la table juste à côté. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, avec grand plaisir pour continuer à échanger avec vous. Je vous remercie.